Résonance, le lundi à 20h sur Radio G, présenté par Marina Dou.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un moment rien que pour vous et avec nous. C'est Résonance, l'élégance musicale, l'art du métissage. Les vibrations qui nous touchent traversent notre chair, notre être, au-delà de nos différences. Alors soyez prêts pour le voyage, car c'est avec le quartet Choubiao que nous partons ce soir. Un quartet original réunissant quatre musiciens, c'est Choubiao Quartet. Un projet en commun, perpétuer la musique traditionnelle de Mongolie à leur manière, tout en valorisant l'héritage culturel, à savoir le chant diphonique et les instruments atypiques. Vincent, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans Résonance.
Merci.
On vous retrouve ce soir avec le quartet Choubiao, dont vous êtes le chanteur et également le joueur de basse, guimbarde, flûte sourd. À vos côtés, trois musiciens, Choubiao Wang au chant et au morinkour, Florent Diarra aux percussions à la flûte harmonique, Johan Richard aux guitares, bouzouki et au mao. Un quartet original, un univers atypique qui ne nous laisse pas indifférents, une transe sonore d'une contrée lointaine et de son identité, la Mongolie, mystique ou mythique, une musique vibrante qui invite, nous transporte dans un ailleurs impalpable, celui de l'être. Vous êtes chanteur et instrumentiste. Quel a été votre premier contact avec la musique ?
Enfant, j'ai encore des bons souvenirs, étonnamment, même si j'étais très jeune, de l'éveil musical à l'école de musique. Voilà, on pouvait jouer avec tous les petits objets qui étaient amenés par l'intervenant, en totale liberté, et c'était assez merveilleux pour moi de pouvoir entendre tous ces sons, les développer tranquillement, et puis improviser, faire vraiment ce qu'on voulait, quoi, voilà, et se laisser bercer. J'ai gardé cette conception de la musique issue de l'éveil musical, je crois.
Vous avez plutôt une formation classique ou de musiques actuelles par la suite ?
Alors moi, j'ai été à l'école de musique enfant. J'ai joué du saxophone, puis j'ai arrêté par la suite. Et puis adolescent, j'ai joué dans différents groupes de rock, de collégiens et puis de lycéens. Et puis à l'université, j'ai continué comme ça, vraiment de manière autodidacte. Et puis arrivé à l'âge adulte, si j'ose dire, j'ai repris les études de musique et je me suis inscrit au conservatoire pour comprendre quand même comment marchait le solfège, comment marchait l'harmonie, parce que ça facilite, disons, un peu les rapports et la discussion avec les autres musiciens. Mais je crois que de ma formation autodidacte, j'ai quand même conservé un certain goût pour l'expérience, l'expérimental, l'improvisation, le partage et puis l'instant, quoi, aussi.
Et qu'est-ce que vous aimez dans l'improvisation, dans cet espace de liberté, de partage ?
Ben, moi, j'ai toujours vécu la musique de manière assez intense et profonde, d'un point de vue physique. Et c'est vrai que, pour moi, la musique se rapproche d'une certaine forme de voyage intérieur. Et j'aime beaucoup, pour ça, le chant, sa dimension vibratoire, le fait qu'on puisse le partager aussi en groupe, en se mettant un petit peu dans les voix des autres. Parce que ça me fait d'une certaine manière voyager poétiquement, ça me fait méditer, ça m'emporte vers des contrées lointaines, et j'ai trouvé là des personnes avec qui on a formé ce quartet qui partagent aussi, je crois, cette vision de la musique, et c'est encore plus génial de pouvoir le faire ensemble en réalité.
Comment ça s'est passé, cette rencontre, cette fusion avec le chant, cette révélation avec le chant, puisque au départ vous êtes instrumentiste?
Alors moi, j'ai commencé effectivement par le saxophone, mais en même temps j'ai toujours chanté petit, comme ça, pour le plaisir. Je me rappelle de canons qu'on faisait avec mes parents dans les voitures, et puis j'étais toujours le premier motivé à chanter à l'école dès qu'il y avait quelque chose à chanter. Et puis finalement, au collège, quand il a fallu choisir qui faisait la guitare, qui faisait la basse, qui faisait la batterie, qui faisait le chant pour nos premiers groupes de rock, et ben, comme j'avais une voix juste et que j'aimais ça, je me suis retrouvé à chanter. Puis après, bon, c'était parti. D'une certaine manière, je suis jamais tellement poser la question de commencer le chant, ça a toujours fait partie de moi. Et finalement, aujourd'hui, je me considère pas vraiment comme un instrumentiste, mais plutôt comme un accompagnateur, dans le sens où les instruments que j'utilise, pour la plupart, ils servent surtout à accompagner le chant.
Par la suite, vous avez décidé donc de monter un quartet, le quartet Choubiao, bien typé, avec une forte identité. Comment ça s'est passé ?
Alors, moi, j'ai toujours été intrigué par ce qu'on appelle le chant diphonique, par ce timbre guttural, par cette conception du son assez différente de la nôtre. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un anthropologue, Joanny Curtet, qui était venu en tant que producteur de tournée, accompagné des musiciens mongols pour un festival à Grenoble, là où j'habite. Et en fait, je leur ai posé des tas de questions sur comment on fait, etc. Parce qu'en tant que chanteur, j'étais intéressé par la technique et je voulais dévoiler un peu le mystère qu'il y avait autour de ce chant-là. Et il a fini par me dire, mais tu sais, toutes les questions que tu te poses, là, elles sont très conceptuelles, très théoriques, mais si tu allais sur place, en Mongolie... Simplement, t'aurais toutes les réponses sans les mots, quoi. Pas simplement par l'ambiance, l'atmosphère, tout deviendrait évident. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même intriguant tout ça, et j'ai eu la possibilité de prendre du temps et d'y aller. Et du coup, je suis parti la première fois 2 mois en Mongolie. Mmh. Et là, j'ai rencontré un maître de chant très très exigeant qui a commencé à m'enseigner un peu cette technique. Et puis, je suis resté un peu sur ma faim parce que j'avais appris quelques trucs, mais en même temps, ça restait quand même un peu très difficile d'accès. J'étais pas vraiment sûr d'y arriver. Et donc, j'ai pris un billet. Dès que je suis rentré, j'y suis retourné. Et là, j'ai trouvé un autre maître avec qui j'ai pris encore plus de temps et avec qui on a justement beaucoup joué, beaucoup improvisé. Au début, comme je savais pas encore... chanter le chant diphonique, je me rappelle que je récitais de la poésie française sur des airs de chant mongol que lui jouait. Et puis petit à petit, il m'a demandé de l'accompagner, de faire comme je pouvais. C'est vraiment une transmission orale, il n'y a pas d'explication, simplement on imite comme on peut. Jusqu'au moment où j'ai vraiment eu l'impression de faire comme lui, d'y arriver à peu près, comme on dit. Et puis voilà, j'ai ensuite je suis un peu tombé amoureux de ce pays en même temps que de sa musique. En voyageant là-bas, j'ai rencontré des familles nomades, j'ai découvert des paysages, j'ai aussi découvert une conception du monde spirituelle, puis concrète aussi, qui m'a beaucoup attiré. Et donc, j'y suis retourné régulièrement pour suivre l'enseignement de ce maître, et en même temps, pour continuer à voyager, à découvrir ce pays-là, duquel est issue cette musique. Et... il se trouve qu'en France, les gens comprenaient pas forcément ce que j'allais faire en Mongolie. Ils me disaient, tiens, qu'est-ce que c'est ce chant étrange? Et il y avait quand même une forte curiosité à cet égard. Et à un moment donné, on m'a sollicité pour animer un atelier de transmission du chant diphonique. Et puis là, je me suis découvert une passion pour la transmission. Et donc, mon aventure du chant diphonique en France a commencé comme ça, en animant des stages, en essayant de transmettre un petit peu les sensations que j'avais pu avoir là-bas, la technique, mais aussi et surtout même l'état d'esprit. En tout cas, la manière dont je l'avais ressenti, évidemment. Et puis, petit à petit, on m'a mis en lien, en fait, un jour, avec des Mongols, dont un jour Choubiao, qui, vraiment par un hasard est très étonnant, s'est retrouvé à Grenoble. Il était venu suivre des études en France, et puis il a trouvé un boulot à Grenoble, tout simplement. Et puis des musiciens que je connaissais m'ont mis en lien avec lui, en me disant, mais tu sais, toi, la musique mongole, il y a un type qui vient d'arriver, on l'a croisé, il a ses instruments, il cherche des gens avec qui jouer. Je me suis dit, il faut absolument que je le contacte, ni une idée, je l'ai contacté. Le soir même, il était chez moi avec tous ses instruments, et puis on a partagé des tas de morceaux qu'on connaissait ensemble, et des techniques et des souvenirs, et c'était génial. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va préparer un petit répertoire comme ça pour le plaisir de jouer ensemble. Et puis, ça a été apprécié, nous on a apprécié le faire, le public a apprécié l'écouter. Et donc, quand ça a eu l'air de devenir sérieux, on s'est dit, il faut qu'on recrute des musiciens qui tiennent vraiment la route, qui tiennent la baraque, pour rajouter une section rythmique, une section harmonique, et puis pour avoir des arrangements qui nous permettent d'être assez libres dans l'interprétation. Et Et donc, ben, j'ai fait appel à mon réseau, tout simplement. Et là, il y a Flo, le percussionniste, qui m'a répondu, qui m'a dit, écoute, j'ai pas trop de temps, mais en même temps, on avait envoyé juste un petit morceau enregistré à l'arrache sur le téléphone. Il m'a dit, j'ai pas trop le temps, mais en même temps, ça me chauffe, cette musique-là. Il y a un truc, je le sens. Je vais venir à une répète, on verra. Et puis, il est venu avec Johan, parce que ils jouaient de la musique ensemble, ils continuent, dans un duo qui s'appelle Floyd. Un duo, je dirais, de trans acoustique. Et Johan, à la base, il est producteur de musique électronique et aussi guitariste. Et donc, il nous a fait la même réponse. Il dit, écoutez, j'ai pas trop le temps, mais en même temps, c'est vrai que ce projet, il me chauffe quand même. Donc, écoutez, on veut bien essayer de juste vous aider un peu, si vous voulez, avancer un peu. Et puis, de fil en aiguille, les deux duos se sont vraiment assimilés l'un l'autre. Et maintenant, on a décidé d'appeler ça symboliquement Choubiao Quartet. Voilà, pour vraiment se dire qu'on est... On est là tous les quatre à faire ce son. On le fait tous ensemble et chacun amène un petit peu sa touche, quoi. Voilà, tout en restant bien sûr dans l'héritage de la musique mongole, mais on se l'approprie tel qu'on est aujourd'hui avec nos expériences et puis au 21e siècle, quoi.
Vous parlez de sensations dans ce chant diphonique. Quelles sont-elles? Est-ce qu'on peut avoir une démo en direct?
Ben, en fait, le chant diphonique a différents styles. Alors, je vais me loigner un tout petit peu du micro, mais.
D'accord.
Ça fait comme ça. Il y a le grondement des cascades, comme celui-là. Il y a l'univers de la steppe avec les animaux, les moutons qui bêlent, avec les rivières, avec le vent qui siffle, tout ça aussi symbolisé, les bardes qui racontent leurs histoires autour du feu, par un timbre, le shahar, qui est un timbre pressé, qui vient évoquer tout ce mode de vie et cette nature qui fait un peu comme ça. Jusqu'au vent qui siffle vraiment fort dans les interstices de la yourte et entre les montagnes. Voilà pour un petit exemple rapide.
Merci beaucoup. Oui, on a quand même des sensations assez fortes, en tout cas pour ma part, au niveau de la poitrine.
Ah, ok. Et ben, effectivement, c'est en fait un chant qui peut-être est un peu contagieux, dans la mesure où déjà il évoque des choses un peu archaïques, je crois qu'il nous rassemble tous en tant qu'humains, parce que d'où qu'on vienne, où qu'on habite actuellement, on vient quand même tous de la même souche, et pendant des millénaires, je crois qu'on a été quand même extrêmement proche de la nature et proche de notre instinct primaire, et même si on s'en est un peu éloigné finalement ces derniers siècles, c'est quelque chose qui nous constitue et qui nous rassemble. Et je crois que ce type de chant, avec un bourdon, avec une voix très rauque et puis qui évoque la vie dans la nature d'une certaine manière, ça nous ramène tous, enfin c'est ma théorie, à une forme de mémoire un peu archaïque. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que on rentre d'une certaine manière en résonance au-delà de notre conscience moderne. Et puis le son en lui-même aussi, c'est quelque chose de mystérieux et passionnant qui se dévoile à nos oreilles. D'une certaine manière, on vient en fait chanter à l'intérieur d'une seule note. D'un point de vue solfégique, s'il avait fallu écrire ce que j'ai fait, en fait, ça aurait été une note liée pendant plusieurs mesures, parce que finalement, j'ai chanté qu'une seule note. Mais à l'intérieur de cette note, je me suis amusé en fait à faire varier. Les constituants de cette note qu'on appelle les harmoniques, voilà, parce qu'il faut savoir que le son, il est fait comme la lumière d'une multiplicité de vibrations. Comme la lumière, on pose un prisme devant la lumière blanche, puis on s'aperçoit que ça nous dévoile les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on voyait pas, mais qui quand même étaient contenues dans la lumière blanche. Pour le son, c'est la même chose. Si on arrive à travers des sortes de tours de prestidigitation vocale à diffracter le son comme on diffracte la lumière, se dévoile à nos oreilles un petit peu comme un arc-en-ciel sonore, avec les différents harmoniques qui apparaissent à nos oreilles un petit peu comme par-dessus le bourdon, le grondement, comme des sifflements, ou bien le son que fait un verre en cristal, ou une voix de soprane très aiguë, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est aussi une nouvelle conscience du son qui se dévoile et qui vient remettre aussi un peu en question la perception qu'on a tout le temps, en fait, que ce soit dans le quotidien ou même dans la musique occidentale. Donc on vient approfondir la question, en fait, du timbre d'une manière complètement dingue. Et je pense que c'est aussi ça qui nous hypnotise un petit peu, quoi, c'est de se rendre compte tout à coup il y a quelque chose qu'on comprend pas, en fait, et qui arrive dans nos oreilles et qu'on sait pas expliquer. Voilà.
Oui, une sorte de nouveau rapport au son, aussi, ouais, aux sensations.
Exactement. Et puis c'est vrai que les sensations, d'en parler, mais quand on se met à chanter ça, d'une certaine manière, bien sûr, on suit une mélodie, on peut suivre des paroles, il y a une dimension expressive très importante et sociale, mais d'un point de vue plus introspectif, moi, en tout cas, ça me fait comme une forme de massage sonore aussi, et comme une forme de méditation. J'ai vraiment l'impression que le son s'écoule à l'intérieur de moi, d'une certaine manière, comme une vibration qui descendrait très, très lentement, et c'est quelque chose qui engage tout le corps. On a la nécessité, pour pouvoir chanter comme ça, d'être dans une posture de dignité, avec vraiment le dos droit, la colonne alignée, pour que l'air circule correctement et puis qu'on arrive à trouver les appuis dont on a besoin pour envoyer ce son qui, en fait, est très puissant et qu'on doit canaliser. Et en même temps, ça demande une énorme concentration, parce que dans ce son qui est très puissant, très large, il faut arriver à trouver un chemin d'harmonique, de mélodie, qui lui est extrêmement subtil, parce que ça se fait avec des mouvements de langue, des mouvements de lèvres, des degrés d'ouverture de mâchoire, qui demandent d'être précis. Donc, en fait, on a un petit peu ce paradoxe entre quelque chose qui demande comme une force vraiment opératique, d'une certaine manière, et en même temps, beaucoup beaucoup de finesse et beaucoup de douceur, et donc ça demande cette concentration, et peut-être que ça aussi c'est quelque chose qui peut fasciner, qui peut être un petit peu contagieux. En tout cas, moi, ça fait aussi partie des choses qui m'attirent et qui me plaisent dans ce champ, bien sûr, les sensations.
Votre groupe s'appelle Shubiao. Est-ce qu'il y a un sens particulier? Juste, c'est le nom de le prénom de
Ouais, c'est le prénom, parce que en fait c'est Shubiao qui nous amène le répertoire de Mongolie. Donc il est venu dans ses valises comme un barde, avec toutes des épopées, des louanges, des poésies, etc. Et il nous les partage, et nous, on en fait autre chose. Mais finalement, on a voulu aussi rendre hommage à ce colportage un peu de mélodie, si j'ose dire, en disant voilà, c'est quand même cette fonction de barde qui s'exprime, et nous, on vient enjoliver tout ça, mais par une certaine forme d'humilité, je crois. On a aussi voulu se mettre un petit peu en retrait, nous trois, par rapport à ce que Shubiao propose, et donc on a simplement rajouté quartet pour dire ok, on est quand même un groupe en tant que tel, avec chacun son univers et ses propositions singulières, mais derrière quelqu'un qui amène un univers qui est incomparable, quoi.
Eh bien, on va écouter un extrait de Morton Mongol. Alors, qu'est-ce que cette musique évoque, ce titre?
Martin Mongol, en fait, ça évoque le cavalier mongol. En fait, il faut savoir que dans le répertoire mongol, il y a beaucoup d'épopées qui viennent bien raconter l'époque où l'empire mongol a été le plus grand empire terrestre qui n'ait jamais existé, à la suite de Genghis Khan et de ses héritiers. Et en fait, quelque chose qui était particulièrement marquant dans les récits qu'on a de cette époque-là, c'était la crainte que les peuples avaient de cette espèce d'animal mi-cheval, mi-homme, peut-être que les centaures viendraient de là, c'est possible, qui arrivaient comme ça déferlant sur la steppe, parce que avec leurs petits chevaux et leurs grandes armures et tout ça, bah on a l'impression qu'ils ne faisaient qu'un finalement avec cet animal, et donc les Mongols sont des cavaliers vraiment redoutables, extrêmement doués. Ils s'en servent, ils s'en sont servis bien sûr pour la guerre. Ils auraient jamais conquis un territoire aussi important sans leur destrier. Et puis en même temps, ils s'en servent aussi pour tout finalement, pour aller récupérer les animaux qui sont isolés, qui sont partis, parce que là c'est un pastoralisme extensif. Les animaux suivent le pâturage et puis on nomadise en fonction en les suivant. Et puis les chevaux servent à transporter les yourtes, à transporter les vivres pour passer d'un campement à un autre. Et puis ils servent aussi à faire des courses qui animent la vie, notamment estivale, les fêtes estivales, les grandes courses de chevaux sur des dizaines de kilomètres, avec des cavaliers très très légers, des enfants pour la plupart du temps dessus. Et puis c'est extrêmement populaire. Et puis les chevaux, les juments en tout cas, produisent aussi un lait qui est très très difficile à obtenir, parce qu'il faut traire les juments 5 fois par jour, avec à chaque fois des toutes petites quantités, en ayant préalablement attaché le poulain qui bien sûr se débat, etc. Enfin c'est très très difficile, et en même temps ça apporte un lait qu'ils font fermenter et qui est extrêmement bénéfique d'un point de vue nutritionnel. Et l'été, finalement on peut quasiment se contenter certains de ça, quoi. Et donc l'animal, à la fois on le monte, on mange sa production, il transporte nos vivres, il anime nos jeux, et puis évidemment il a tellement d'importance que il finit par être un protagoniste essentiel du répertoire des chansons. Et donc ce titre Martin Mongol parle de cette allure des cavaliers mongols qui sont fiers sur leurs chevaux, avec leur attitude martiale, et puis ces chevaux qui foulent la terre sacrée, et puis qui en même temps descendent d'une certaine manière d'une forme de divinité, quoi. Donc les chevaux à la fois ont une part essentielle dans le répertoire, et puis pour ceux qui connaissent l'instrument qu'on entend au début du morceau, qu'on appelle le Mölindrôr, ça veut dire la vielle cheval, en fait le violon cheval. Où il y a le cheval, le Mölindrôr est souvent en fait surmonté d'une tête de cheval sculptée, Et donc il y a des légendes qui disent que c'est avec les restes d'un cheval que le premier Mölindrôr a été fabriqué par un berger pour se lamenter justement du fait que son cheval était mort et qu'il ne pouvait plus s'en servir pour aller voir sa belle. Et voilà, il y a plein de belles légendes comme celle-ci qui nous parle des chevaux. Donc c'était évident qu'en reprenant du répertoire mongol, on allait s'attaquer à cette thématique du cheval comme figure mythique.
Et pour finir, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre avec votre musique?
En fait, on a envie de transmettre que les traditions ne sont pas figées, mais qu'il faut savoir les creuser pour pouvoir les transmettre. C'est-à-dire que la musique mongole, elle évolue, on peut pas le nier, et on sait pas comment elle était il y a plusieurs siècles en arrière, parce que c'est de la transmission orale. On sait pas comment elle sera dans plusieurs siècles en avant. Alors même si elle sera enregistrée, on aura des traces, mais on a à cœur, nous, de la vivre vraiment en tant que nous-mêmes, avec nos propres personnalités, nos propres expériences, mais tout en respectant le plus possible ce il nous semble être son esprit. Et c'est un esprit qui, pour moi, est vraiment relié, comme je disais au début, à quelque chose d'archaïque à l'intérieur de nous. Donc déjà, peut-être transmettre une forme d'essentiel qui nous constitue un petit peu tous, liés à cette vie en lien avec les éléments. Cette vie où, en fait, on chante les louanges à la nature parce que, en fait, on y est totalement soumis. On se considère pas au-dessus finalement du vivant parce que c'est dans l'équilibre qu'on trouve avec le vivant que on arrive à faire survivre sa communauté et donc ce vivant voilà il fait partie de nos chansons dans le répertoire dans les thématiques qu'on aborde mais aussi même dans la manière dont on le joue en fait dans le rapport qu'on a avec la voix avec le timbre avec les manières de jouer nos instruments, eh bien c'est toute cette tout ce rapport au vivant sans cesse en mouvement qui je l'espère se diffuse auprès du public qui se reconnaît quoi. Et donc aujourd'hui bien sûr dans nos contrées on n'est plus confronté à la vie dans la nature, mais je crois que ça nous fait du bien. D'en avoir encore des traces comme celle-ci et que si grâce à notre musique des personnes peuvent se relier à elles-mêmes à quelque chose d'un peu profond à l'intérieur d'elles-mêmes et en trouver de la joie et du sens on aura l'impression d'avoir fait aussi notre boulot pour parler de la fonction un peu plus sociale de l'artiste.
Merci Vincent Tourneau pour ce partage. Vous écoute sur les plateformes et on vous retrouve en concert le 7 juin chez l'Habitant à Grenoble.
Oui, et toute une quinzaine de dates à retrouver sur notre site internet un peu partout.
Résonance, c'est sur Radio G pour vous et avec nous. De l'élégance, de l'émotion, des vibrations. On vous dit à bientôt.